Canada nous arrive avec cette histoire-là. Des gens qui ont eu la surprise d'apprendre que, et c'est une agente immobilière de la région de l'Ontario, qui dit dans le fond, quand vous avez des clients qui ont des systèmes de surveillance à l'intérieur du domicile, devriez peut-être avertir que les gens qui visitent dans la maison peuvent, de un, être filmés, et de deux, peuvent être enregistrés à leur insu. Elle dit qu'elle a eu des clients qui ont appris par la suite que leurs conversations à l'intérieur de la propriété qui les intéressait ont été enregistrées par les vendeurs de la maison. Donc, s'il y avait de l'intérêt, puis on négociait avec un espèce de tu sais, le prétexte, on a tous fait ça une fois, là, si vous avez magasiné à la maison. Oh oui, c'est intéressant, mais dans le fond, vous avez eu la discussion avec votre conjoint-conjointe, puis c'est vendu d'avance, c'est votre coup de cœur. Admettons que l'argument de vente avait pris un peu de plomb dans l'aile. Puis on s'est dit, pourquoi pas en parler avec quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine. Le courtier immobilier Georges Bardagy est avec nous. Bonjour, M. Bardagy.
Bonjour, M. Beaumont.
Doit-on absolument divulguer à des acheteurs potentiels qu'ils peuvent être enregistrés ou filmés durant leur visite de cette résidence?
Je pense que ça va de soi. N'importe, là, on parle de vie privée ici, c'est une loi canadienne. Je pense que là où on n'est pas certain, mais on est en train de vérifier encore, parce que ça ne s'est pas encore produit au Québec, ça s'est produit en Ontario, mais je suis certain que le régulateur, l'OACQ, va jeter un coup d'œil là-dessus. Mais normalement, lorsque quelqu'un est sous caméra ou sous écoute, encore pire, normalement, la bonne pratique, c'est de le divulguer comme vendeur à son courtier, puis le courtier inscripteur pourra éventuellement le divulguer aux autres courtiers et acheteurs qui visiteraient la maison.
Mais M. Bardagy, on l'a vu peut-être dans des propriétés de luxe. Je sais que vous avez plusieurs propriétés de prestige que vous vendez. C'était peut-être un peu plus commun, mais les systèmes de surveillance se sont tellement démocratisés. Est-ce que vous voyez ça régulièrement, ce genre de système-là à l'intérieur?
En fait, à l'intérieur, l'écoute, j'ai jamais vu ça. À l'extérieur, c'est vraiment fréquent. Vous avez raison de dire que ça s'est démocratisé. On en voit partout. C'est moins cher, plus abordable et les gens veulent surveiller leur propriété. On voit ça à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, c'est facile de dire qu'il y a des caméras, sont apparentes, on les voit. Ce qu'on voit probablement de plus en plus, mais qui est moins évident, c'est qu'on voit des propriétaires, des fois, de maisons. Ils veulent, je sais pas moi, surveiller la gardienne ou les gens qui font des travaux de rénovation à la maison, qui mettent des systèmes carrément d'espionnage. Puis bon, ben là, moi, de toute façon, si j'avais connaissance de ça, forcément, on le divulguerait, puis on aurait cette discussion-là. Ça m'est pas arrivé encore, mais je serais pas étonné que ça arrive de plus en plus dans le futur.
Mais ça, là, j'imagine que les gens qui visitent, il y en a plusieurs qui vont demeurer assez silencieux, puis on va dire, là, permettez-moi l'expression, mais ça va être poker face quand on fait la visite, parce que sinon, la stratégie vient de prendre le bord.
Ben, un bon courtier, de toute façon, observe les clients. Des fois, le coup de cœur, il se fait de façon non-verbale. Il n'est pas toujours... quelqu'un qui retourne trois fois dans une chambre commence à mesurer les meubles, c'est voir si ça rentre. Forcément, ils ont un coup de cœur pour la maison. Mais de là, à avoir de l'information privilégiée sur le prix qu'on est prêt à payer, puis tout ça, ça me semble vraiment gros. Puis j'espère qu'on verra pas ça dans prochainement.
Bon, on parle de ce cas-là, c'est en Ontario. Puis on va rester en Ontario parce qu'il y avait un dossier qui a été fait par le Toronto Star dans les derniers jours. On dit qu'il faut probablement user de plus en plus d'originalité pour attirer des visiteurs lorsqu'il y a des portes ouvertes, des gens qui veulent attirer des gens à leur propriété pour tenter de la vendre. Là, je voyais toutes sortes de choses. Des gens qui ont fait venir des food trucks, qui ont fait venir pratiquement des mariachis là, pour attirer les gens à leur show. Qu'est-ce que vous... Même offrir des iPads en tirage à vos clients qui viennent, est-ce que vous êtes obligé de faire ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a une trop grande demande, il y a une trop grande offre pour la demande, finalement, dans ce secteur-là?
C'est drôle que ces pratiques-là viennent du marché qui a été le plus en ébullition dans les 10 dernières années. Mais il faut croire que l'année passée, le marché de Toronto, il y a vraiment eu une cassure. On voit que le nombre de transactions est en chute. Les prix ont vraiment moins augmenté que les autres années. Et on sait que c'est un marché en effervescence. Mais là, probablement qu'il y a des maisons qui se vendaient facilement en offres multiples avec une multitude d'acheteurs. Puis là, les courtiers immobiliers se doivent de redoubler d'imagination pour faire de là à nourrir tout le voisinage pour venir voir la maison. Bon, mais je suis certain que ça fait des heureux, mais je ne suis pas sûr que c'est une pratique souhaitable. L'activité de visite libre est quand même très populaire, puis elle est populaire également au Québec. Hein. Ça a lieu le dimanche après-midi, d'habitude. On en voit aussi quelques fois le samedi. Elle peut durer entre 1 heure et 2 heures. C'est une activité qui permet à des clients qui n'ont pas encore décidé. Leur maison est à vendre dans un autre secteur de la ville. Ils veulent se donner une chance de voir qu'est-ce que leur budget pourrait se permettre. Donc, c'est des acheteurs qui sont sérieux, ne sont pas nécessairement prêts à acheter tout de suite. Il y en a qui sont prêts à acheter tout de suite, d'autres plus tard. Et ici, à Montréal, je peux vous dire que c'est très populaire. On peut avoir des fois, on peut avoir jusqu'à une vingtaine de personnes qui peuvent passer dans une maison dans un après-midi. Et donc, c'est vraiment l'offre et la demande qui va faire que les visites se font. Moi, je pense que d'attirer des gens avec de la nourriture ou autre chose, je pense que ça serait un petit peu superflu. Et puis, ça donnerait un faux indicateur. Si je fais venir un food truck, puis il y a 500 personnes, puis qu'il n'y a aucun acheteur pour la maison, ben je pense pas que mon vendeur serait content de ça.
Mais est-ce que la perception peut être faussée? Moi, j'ai eu cette impression-là longtemps qu'on était à la visite libre. C'est un peu la démarche du désespéré, c'est-à-dire le vendeur qui, là, a pas vraiment, il n'y a pas d'intérêt ou il n'y a pas vraiment d'action sur la propriété. On veut faire bouger les choses, puis on dit, ben on va donner un coup, puis on espère que quelqu'un la voit ou ça va peut-être remettre de l'intérêt sur le marché.
Mais oui et non. Donc, c'est sûr que si on fait des visites libres toutes les semaines, on va peut-être donner l'impression qu'on est comme un peu désespéré. Mais normalement, l'activité de visite libre, ça vient remettre un petit peu le spotlight, si vous me permettez l'expression, sur cette maison-là. Mais dans les premières semaines, moi, là, à chaque fois que je prends une nouvelle maison, je conseille à mes vendeurs de faire une visite libre le premier dimanche, puisque quand c'est nouveau, il y a beaucoup d'engouement pour une nouvelle propriété sur le marché. Il y a de l'excitation. Bien sûr, il y a des gens qui visitent sur rendez-vous, mais ces gens-là qui ont un coup de cœur vont peut-être se redonner la chance de visiter une deuxième fois avec parents, amis, collègues ou des entrepreneurs qui pourraient faire des travaux. Et c'est une activité populaire qui fonctionne bien. Si ça ne fonctionnait pas, on arrêterait d'en faire parce que les courtiers immobiliers, on aimerait tous faire d'autres choses le dimanche, mais c'est une occasion en or de rencontrer des clients qui sont au début ou à la fin de leur recherche, mais qui sont vraiment dans le processus. Et ces contacts-là, cet échange d'informations-là, c'est vraiment une partie importante de notre métier.
Notre invité, Georges Bardagé, courtier immobilier, et je regardais dans les événements auxquels on faisait référence, une courtière immobilière raconte qu'elle a dépensé, c'est un courtier immobilier plutôt, 5 000 $ pour sa porte ouverte, pour sa visite libre. Incroyable quand même.
Moi, j'espère que la maison s'est vendue et qu'elle était de bon prix parce que ça fait une grosse dépense pour une activité.
Autre élément, 2019, on a eu les chiffres de 2018 sur la vente immobilière. On est diffusé à travers le Québec. Je sais que vous êtes principalement dans la région de Montréal. Ça s'annonce une bonne année, 2019?
En fait, oui, ça s'annonce une excellente année puisque tous les carburants du marché immobilier sont au rendez-vous. Alors qu'on parle de confiance en économie, de taux de chômage qui sont historiquement bas, on parle d'acheteurs étrangers qui ont un engouement pour Montréal. On parle même du marché de condos qui est en effervescence à Montréal. Ça a été, on a vu dans les dernières années, 2013 à 2016, qu'il y avait un surplus de condos invendus. C'est plus le cas. On est retourné dans un marché équilibré et même de vendeurs dans certains secteurs. La seule ombre au tableau, c'est que c'est pas impossible que les taux d'intérêt augmentent probablement dans la deuxième moitié de l'année. Donc là, présentement, votre boule de cristal est aussi bonne que la mienne, mais disons que c'est la seule ombre du marché immobilier montréalais et québécois. C'est sûr que Montréal fonctionne à une vitesse encore plus grande que le reste du Québec, mais tout le Québec a été en hausse, puis le Québec et probablement un peu quelques provinces de l'Atlantique et même la ville d'Ottawa ont été le meilleur secteur immobilier canadien en 2018, puis ça devrait se poursuivre en 2019.
J'entendais une de vos chroniques sur nos ondes qui disait, entre autres, que peut-être la perception pour les gens qui ont une propriété pense vendre, puis on a dit jadis naguère que l'époque du mois de mars, mois d'avril, c'était le meilleur moment pour mettre la propriété sur le marché. Janvier, c'était tranquille, il se passait rien. Puis c'est une fausse perception qu'on a.
C'est une très grande fausse perception, puis je suis content que vous en parliez. Il faut absolument casser ça. Regardez, on est déjà rendu à 8 transactions juste dans notre équipe en janvier. Puis on est le 16 janvier, puis on est d'accord que la première semaine de janvier, les gens sont encore dans le beat des fêtes puis du nouvel an. La plupart des gens achètent une maison, puis ils vont passer chez le notaire, puis déménager entre 90 et 120 jours après la promesse d'achat. Okay. Donc, si on regarde présentement, on est au 16 janvier, bien, si on regarde dans 4 mois, bien, c'est là où les gens vont vouloir déménager mai, juin, juillet, faire des travaux, puis déménager, puis arrimer ça avec la fin des baux qui traditionnellement se termine le 30 juin à Montréal, puis la période des écoles qui se termine aussi en général au mois de juin. De sorte que tout se passe de 3 à 4 mois. Donc là, présentement, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein d'acheteurs des locataires qui ont décidé, cette année, ont pris la décision avec un peu de repos pendant le temps des fêtes, puis on dit, OK, cette année, on achète notre propriété. On doit donner notre avis au propriétaire avant le 31 mars, ouais, puisqu'il faut donner 3 mois avant l'expiration du bail. Puis là, ils sortent massivement dans les visites libres. On le voit, nos statistiques, les sites web, les téléphones sur nos propriétés. Il y a même déjà beaucoup d'offres d'achat qui se font. On est en promesse d'achat multiple sur plusieurs propriétés dès le mois de janvier. Puis il y a peu d'inventaire. Donc, forcément, si les gens qui veulent vendre leur propriété voudraient vendre à un bon prix plus rapidement puis avec moins de stress pour avoir plus de temps pour se trouver une propriété par la suite, bien, c'est idéal. Si on attend mars-avril, c'est des bons mois aussi. T'sais, il va y avoir plein de ventes qui vont se faire, mais il va peut-être avoir plus de produits pour vous compétitionner que c'est le cas présentement.
Et l'offre d'achat multiple, j'entends les gens dans différents secteurs un peu plus ruraux, là, qui j'en ai été, là, qui se disent c'est un rêve en couleur pour ce genre de propriétaire, parce que c'est impossible.
C'est sûr qu'à Montréal, présent, si on regarde l'année passée, qu'on regarde les plex, les, ouais, maisons ou les condos, on parle de entre 10 et 17 des transactions qui étaient en offre, en promesse d'achat multiple. Ça veut pas toujours, ça se traduit pas toujours par un prix de vente, non, en haut du prix demandé, mais c'est quand même un signe que forcément la demande est très forte. On est dans un marché de vendeurs, ouais, où il y a à peine 6 mois d'inventaire dans ces catégories de produits sur l'île de Montréal.
En dernière question, en quelques secondes, on a parlé longtemps d'un possible le ralentissement de la villégiature, de la propriété, de la seconde propriété. On parle de chalet, entre autres. Est-ce que vous voyez ça dans le marché? Est-ce que vous sentez qu'il y a un essoufflement ou au contraire, il y a une espèce d'engouement pour ce type de propriété-là?
En fait, je pense que il y a un changement qui s'opère. Je pense que le nombre de propriétés en campagne ou en région ou en chalet, là, s'est augmenté quand même dans la plupart de nos secteurs l'an dernier, le nombre de transactions. C'est sûr que c'est pas l'île de Montréal, on parle pas de rareté de stock puis de marché de vendeurs, mais il y a eu une hausse du nombre de transactions. Puis je pense que les plus jeunes acheteurs, ceux qui arrivent sur le marché présentement entre l'âge de, mettons, 25 et 35 ans pour s'acheter une résidence, vont chercher quelque chose de plus petit, un peu différent que le chalet traditionnel que leurs parents avaient. Et il va y avoir un changement qui va s'opérer. Il y a une chose qui ne va pas se démoder, par contre, dans la villégiature, c'est que les bords de l'eau, le bon Dieu, il n'en fait plus de terrain sur le bord de l'eau. Puis ça prend toujours de la valeur, puis ça reste toujours populaire. Donc, je pense qu'à prix égal, ce sont toujours ces propriétés-là qui vont prendre de la valeur et se vendre plus vite et en premier.
Georges Bardagé, merci d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir. Bonne soirée.
Merci, au revoir. Il est courtier immobilier. Donc, voilà quelques tendances pour la prochaine année. Il est 18h19.